Voilà, bonjour à toutes et à tous, c'est une joie d'être ici. Alors, le texte que Dieu m'a mis sur mon cœur ce matin, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte qu'on connaît tous, on a déjà lu ça, relu ça, et on l'a sûrement étudié à l'école du dimanche. Et voilà, c'est un texte qu'on connaît. Mais j'aimerais qu'on s'arrête dessus, et j'ai un ami américain qui me disait toujours, quand il prêchait, moi j'aime bien camper sur le texte. J'établis ma tente sur le texte et puis j'essaye de sortir le plus possible du texte. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, un autre défaut, je parle vite. Ouais, et là, je fais attention encore. Ouais, donc, c'est encore trop vite ou je peux encore baisser, ça va, ok. À la limite, quand c'est trop vite, que quelqu'un lève sa main, comme ça, je sais que c'est trop vite. Voilà. Ouais. je suis encore impressionné de la présentation. On ne m'a jamais présenté comme ça. Donc, c'est très... Il ne faut pas dire tout ça, c'est gênant. Merci. Alors, chapitre 5, verset 21 et suivant. C'est l'histoire de cette dame qui touche le vêtement de Jésus, qui me touche chaque fois que je le lis. Marc 5, verset 21 et suivant. Verset 24 et suivant. Alors, Jésus s'en alla avec Jaïrus, et une grande foule le suivit et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait des médecins, et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'en avait éprouvé aucun soulagement, mais au contraire, elle était allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Mais qui a touché mes vêtements ?» Mais ses disciples lui dirent « Mais tu vois la foule qui te presse ?» Et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé dans son corps, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui répondit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Histoire super connue. Et cette histoire... Comment ? C'est l'histoire d'une dame. On ne sait pas très bien son âge, on ne sait pas très bien qui elle est, elle n'a pas de prénom. C'est un peu la personne inconnue dans Marc. Et elle est ce qu'on appelle un caractère secondaire. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment important. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas André. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de prénom, qui n'est personne. Et pourtant, cette dame, elle est impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'elle a... Il se passe quelque chose. Imaginez avec moi deux secondes, on va essayer de rentrer dans le texte. On va se projeter à Capernaum, il y a 2000 ans, un petit voyage, voilà, on y est. Hein. Il y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, je ne sais pas comment ils faisaient avant. Et alors, on arrive là-bas et il y a une foule qui passe dans la rue et qui compresse Jésus. Le mot grec, c'est suntlibo, c'est presser à étouffer, compresser. Donc, il y a une foule qui compresse Jésus et c'est une grosse foule, évidemment. Et alors, toute tentative d'approche est compliquée. Aller traverser une foule qui compresse quelqu'un, c'est compliqué. Et pour cette dame, ça fait 12 ans qu'elle souffre. Elle perd du sang. Alors mon beau-père, il est gynécologue, donc je lui ai demandé, est-ce que c'est possible ? Il m'a dit oui. Et c'est quoi les conséquences ? La personne est très affaiblie, à force. Elle est très affaiblie, on perd du fer, tout ça. Enfin bref, je ne vais pas vous demander à votre gynécologue, pour ceux qui en ont un. Et donc, comment ? Et cette femme, elle perd son sang et elle est vraiment dans la souffrance physique incroyable. S'il y a une femme dans la Bible, c'est l'introduction toujours, hein, relax. S'il y a une femme dans la Bible qui sait ce que c'est la souffrance, c'est elle. Elle souffre de plusieurs manières. Premièrement, elle souffre de manière physique. Elle est diminuée. Deuxièmement, elle souffre dans le contexte religieux de l'époque, parce que vous irez lire chez vous Lévitique 25, 19 et suivant, qui parle un petit peu de l'état des femmes qui perdent du sang, hein, de l'état pendant les menstruations, tout ça. Et en fait, une femme, heureusement, on est sous la grâce maintenant, hein, pour les femmes et pour les hommes. Et donc, mais avant, une femme qui perdait du sang était intouchable, était impure. Et donc, quand on la touchait, on avait l'impureté sur nous. Et plus que ça, si jamais il y avait plus que ça, ben c'était une impureté de 7 jours. Donc, imaginez, quand on touche cette femme un jour, on est impur 7 jours. Alors, un calcul, 12 ans. Fois 360 jours, fois 7. Donc, elle est intouchable à vie, en gros, hein, calculez chez vous. Elle est intouchable. Cette femme, donc, elle souffre, et qu'est-ce qu'on disait ? Si elle a ça, c'est parce qu'elle a péché. C'est quelque part le résultat d'un péché. Si ce n'est pas elle, ce sont ses parents qui ont péché, et le péché retombe sur elle. Autrement dit, en plus d'une souffrance physique, qui est permanente, elle a aussi une souffrance spirituelle. Elle est esselée, elle est intouchable. Troisièmement, psychologiquement, elle ne va pas. On sait tous très bien que le corps, tu ne peux pas être bien physiquement et pas bien moralement. Généralement, tout est lié. Quand tu n'es pas bien, quand tu déprimes, eh ben, physiquement, tu n'es pas bien non plus. Il y a des conséquences d'ailleurs. Une déprime a des conséquences sur le corps physique. Et cette dame-là, donc, en plus de ces souffrances-là, elle avait une souffrance psychologique et une souffrance de solitude. S'il y a une dame qui ne pouvait pas avoir un rêve, c'est elle. Elle ne pouvait pas rêver « un jour, je vais me marier. Un jour, j'aurai des enfants. Un jour, j'aurai un mari qui va m'aimer. Un jour, j'aurai une maison et je verrai mes enfants courir ou dans l'appartement, peu importe. » Cette dame, elle ne peut pas, puisqu'elle est intouchable. Donc, s'il y a une dame dans la Bible qui sait ce que c'est la souffrance, c'est elle. Et en plus, elle est ruinée parce qu'elle a dépensé son argent chez les médecins et elle n'a tiré aucun avantage. Alors, on n'est pas une secte. Moi, je suis pro-médecin, pas de souci. Bon, j'ai intérêt, mon beau-père est médecin, ma belle-sœur est médecin, son mari est médecin, je ne vais pas les ennuyer. Voilà. Mais dans le temps, il y avait des charlatans, plus comme peut-être aujourd'hui aussi, mais enfin, dans le temps, plus souvent que maintenant. Et donc, cette dame est vraiment perdue. Et donc, elle est au sommet de la souffrance. Elle représente le sommet de la souffrance interne. Elle représente le sommet de la solitude. Et il n'y a personne qui peut dire, tu sais, je sais par où tu passes, je comprends, non. Il n'y a personne qui a ce qu'elle a. Déjà, quand on souffre nous-mêmes, c'est compliqué de partager tout à fait. Hein, une souffrance, c'est un sentiment. Donc, décrire un sentiment, c'est compliqué. Et souvent, même si notre femme ou notre mari peut nous comprendre jusqu'à un certain degré, il y a comme une partie de la souffrance où on est seul. Elle est vraiment seule. Et pourtant, et ça qui m'intéresse aujourd'hui, et pourtant, cette petite dame, toute souffrante, affaiblie, seule, intouchable, impure, rejetée, méprisée, il y a la foule qui passe, elle touche Jésus et elle a son miracle. C'est paradoxal. Il y a un paradoxe, il y a même de l'ironie. La foule compresse Jésus. Imagine une foule qui compresse Jésus et toute tentative d'approche, et même eux, ces gens-là compressent Jésus, donc ils le touchent très fort, et il n'y a aucune guérison. Il n'y a aucun miracle. Elle vient par derrière discrètement, elle effleure son vêtement, elle le touche à peine, pape, elle est guérie. La question que je me pose, c'est comment elle l'a fait? Et c'est ça le titre de la prédication, enfin, c'est pas le titre, mais on va essayer de répondre à ça. Comment cette femme a réussi à avoir son miracle? Autrement dit, comment moi, je peux me décalquer sur elle, faire la même chose pour avoir le mien? C'est ça qui est la question à 1 000 euros, c'est ça. Comment elle a fait? Et donc cette dame, on le verra, en fait, dans l'évangile de Marc, il y a une veine théologique un peu spéciale, c'est que ce sont les personnages secondaires, donc comme elle, Bartimée, qui ne voit pas l'aveugle, un aveugle ça ne voit pas, et Bartimée qui est l'aveugle, et bien aussi c'est un personnage comme ça. Les quatre hommes qui portent Jésus là, qui portent le malade et qui l'amènent à Jésus, qui défont le toit de la maison, qui la baisse, c'est encore des personnages secondaires. Et dans Marc, il y en a plein, et ces gens-là, en fait, sont les vrais disciples chez Marc. Ce sont des exemples pour Pierre et les autres. Pierre le sauront plus tard, mais les exemples de Pierre et les autres, ce sont ces personnages-là. Et donc cette dame, en fait, c'est un disciple. Alors on va me dire, mais Jésus ne croyait pas dans les femmes, il n'y avait que des disciples hommes. En voilà déjà une femme. Il y en a plusieurs. Hein. Voilà une vraie disciple femme. Magnifique, non? Et donc cette dame, ce qu'on va voir, c'est comment elle l'a fait. Et c'est le titre. Comment elle l'a fait? Mon titre. Comment elle l'a fait? Comment elle l'a fait? Ou alors j'ai une bonne nouvelle pour toi? Ou Dieu ne t'a pas abandonné? Prends le titre que tu veux. Et ça me fait plaisir. Parce que cette dame, en fait, et le dernier point de l'introduction, cette dame, avec les yeux humains, on peut lui dire, mais tu sais, toi ça va pas aller. Tu es disqualifié pour un miracle. Tu vois, ça fait 12 ans que tu souffres, Dieu ne t'aime pas, tu vois, il ne sait pas comment te le dire, mais il ne pense pas à toi, il t'a un peu oublié. S'il y a une dame qui est disqualifiée pour un miracle, c'est elle. Pourtant, elle l'a fait. Premier point, et là je rentre dans la prédication, premier point, donc comment elle l'a fait, on a vu qui est cette femme. Premier point, alors c'est un peu bateau ce point-là, mais c'est important. Ce point-là, je pense, est le plus important si on veut avoir notre miracle. Alors, notre miracle, c'est quoi? Je ne sais pas, ton couple peut aller mieux, tu peux, comme tu as dit Jean-Paul Jean-Paul. Voilà, moi j'ai eu 3 accidents graves, 3 comas. Et le premier coma, j'avais 7 ans. Donc une voiture m'écrase, elle roulait à 70 km/h. Et j'ai atterri environ à 20 mètres de l'impact sur ma tête. Bam, tout ça a été cassé. Là aussi, en dessous de l'oreille. Et ça, c'est l'équilibre. Là, il y a deux liquides. Et c'est l'équilibre. Donc je marchais pendant un an à droite comme ça. Hein, c'était un peu marrant. Et je savais pas lire, j'avais perdu la mémoire, tout ça. À 12 ans, je roule en vélo, j'ai reçu une boule de sable dans l'œil. Je passe les détails. Hein. J'ai une grosse boule, il a plu, puis je vais rouler. Puis un homme adulte, 20 ans peut-être, il faisait des boules de sable et il visait un arbre involontaire. Et moi, j'arrive en vélo très vite. Donc j'ai pris la boule dans mon œil. C'est pour ça que j'ai des lunettes. Et j'ai eu un coma. Deuxième coma. Et donc, les médecins, comme tu as dit, disent à ma maman, préparez-vous votre enfant. Ça fait 2 fois que la mémoire a été touchée. À mon avis, les métiers intellectuels, ce n'est pas pour lui. Et bon, moi je me convertis à 19 ans, et à 19 ans et 3 mois, je suis en jeûne et prière, à genoux, à l'église, là, comme ça, et je prie, puis Dieu me dit comme ça, Dieu me dit, j'ai une conviction dans le cœur, et j'en sens une voix qui me dit, fais la théologie. Alors je réponds à l'esprit, mais non, parce que les médecins ont dit que je ne pouvais pas étudier. Et puis je repris encore un coup, puis Dieu me dit, va faire la théologie. Non, j'ai dit, Satan, je te chasse dans le nom de Jésus. Et puis une troisième fois, je mets à genoux, et bam, bon là, j'étais convaincu, mais je n'avais pas mon bac, je n'avais pas la maturité. Moi, j'ai évidemment, avec des accidents, j'ai doublé plusieurs fois. Donc j'ai 3 fois, je crois, ou 4 fois. Donc j'ai fait, en Belgique, il y a 3 années quand tu es petit, donc de 3 à 6, puis 6 années de 6 à 12, puis 12 à 18. Donc moi, j'ai fait première, primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis en secondaire, je fais première, deuxième, troisième, quatrième. Donc l'école, j'avais 19 ans, j'étais toujours dans nulle part. Mais là, je me convertis. Donc imaginez, l'esprit te dit à toi, le dernier de la classe, j'étudiais pas, je faisais rien, parce que, pas que j'étais pas intelligent, c'est parce que les médecins m'avaient dit, faut pas étudier. Alors moi, j'écoute les médecins. J'étudiais pas, et donc j'ai rien foutu. Mais à la conversion, Dieu me reprend. Et donc, j'ai dû faire le bachelier et le master. En même temps, j'ai fait mon bac. En même temps, j'étais pasteur temps plein, pas payé. En même temps, j'étais professeur dans le privé. Essaye. J'ai réussi, parce que Dieu était là. Dieu était là vraiment, c'est chouette. Et donc, voilà. Et donc, à un moment aussi, les médecins, ils ont dit à un moment, mais il est disqualifié, votre fils ne le dira jamais. Mais quand Dieu a un projet pour toi, ce n'est pas un médecin qui peut t'arrêter. Même si on croit à la médecine, on les respecte. Quand Dieu a un projet pour toi, c'est ce projet-là qui va se réaliser. Amen. C'est facile? Non. Il faut se battre? Oui. Il faut persévérer? Oui. Mais le plan de Dieu dans ta vie, c'est celui qui va arriver si Dieu l'a dit. Amen. Et donc, cette petite dame, première chose qu'elle avait, et c'est le point le plus important, elle avait une vision, elle avait un rêve, elle avait un projet. On ne peut pas réaliser quelque chose avec Jésus-Christ si on n'a pas de projet. C'est bête ce que je dis. Hein. Parce que tu vas prier comment? Je me rappelle quand je voulais me marier. Moi, je me suis converti, donc j'avais 19 ans. Et à 19 ans et 4 mois, donc j'étais prêt à me marier. Et je dis, Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi quelqu'un. Et puis, si, apparemment, je n'étais pas prêt. Enfin, ma femme a 10 ans de moins que moi. Donc, à 19 ans, elle avait 9 ans. Ce n'est pas possible. Et je ne savais pas à l'époque. Et donc, j'ai prié. Et puis, moi, j'ai grandi dans une église congolaise. D'ailleurs, une petite remarque. Si mon pasteur m'aurait habillé comme ça, il m'aurait renvoyé à la maison. Je ne sais pas l'église congolaise comment ça va, je ne sais pas si vous savez, c'était sapé quoi. Et évidemment, je suis tombé dans le panneau de la sapologie, donc on arrivait, en même sans prêcher, hein, costume 3 épaisseurs, cravate, pince à cravate, bague, épilé, rasé, tout ça. Et quand j'ai rencontré ma femme, elle a dit, mais Benoît, t'es jeune. Ah oui, toi comme un jeune. Mais je dis, mais c'est jeune. Et voilà, ça, c'est comme dirait Adam, c'est à cause de ma femme. Voilà, donc... Et donc, j'avais ce projet de me marier. Et on a prié. Et puis, j'avais deux potes. Mes meilleurs amis sont congolais. Et on habitait ensemble quand on étudiait. On avait un petit appartement. Et donc, on était très motivés. On jeûnait beaucoup. Et donc, on s'est dit, je ne sais pas, on avait 25, 26 ans. Je dis, qu'est-ce qu'on fait à Nouvel An? Ils me regardent tous les deux. Je dis, ben, il n'y a pas le choix. Qu'on veut tous les trois se marier, on va jeûner toute la nuit, on va faire une veille de prière, on va réclamer. On va faire des prières pour tout le monde. En fait, il n'y avait qu'un sujet, hein, c'était le mariage. Alors on arrive avec nos listes, on prie, puis 3h du matin, finalement, on arrive au point fatidique. Les gars, on va prier. Et on commence à prier, Seigneur, trouve des femmes, on prie. On avait une vision, on avait un projet. Si on n'avait pas de projet, on ne serait jamais marié. Et on prie. 25 ans, j'étais déjà pasteur, j'arrive à l'église, donc le 4 janvier, premier culte, je regarde, elle est où? Puisque j'avais prié, je m'attendais à quelque chose. Et puis, 25 ans passent, on arrive au mois de novembre, on se voit, ah, les gars, rien, moi non plus, ben, qu'est-ce qu'on fait nouvel an? Ben, on va prier, jeûner, pape, nouvel an. Et ça s'est passé comme ça jusque 28 ans. Et à 28 ans, on a été plus loin. On a passé un cap dans la prière. On avait aussi un peu grandi spirituellement. Et donc, vers 3 heures du matin, déjà, il n'y a plus qu'un sujet. Tout le reste était limité, ce sujet-là, et on priait, pour, on priait. Puis vers 3 heures, on a même commencé à prophétiser sur nous-mêmes. Je prophétise que cette année, c'est la bonne. Amen, amen. Et on continue à prier comme ça. Donc le 4 janvier, j'arrive, je regarde, elle est où? Rien. Mais un jour, le Dieu qui a dit non pendant 8 ans, le même Dieu qui dit non, le même Dieu qui a fermé la porte, un jour, il a ouvert la porte. Amen. Donc le Dieu qui dit non, et ça, c'est encourageant, c'est aussi le Dieu qui dira oui en son temps. Et un jour, je vois ma femme arriver à l'université, je passe, je la vois, je dis, oula, je vais prier. Je vais prier un coup. Et puis j'ai jeûné 11 ou 12 jours, je ne sais plus, ou 10. Et puis j'ai, à la fin, en fait, je voulais faire qu'un jour, je n'ai pas envie de faire 10 jours. Et puis à un moment, à la fin, je dis, Seigneur, est-ce que c'est la bonne? Et j'ai eu une paix. Elle ne savait rien, hein? J'ai eu une paix. Et puis bon, voilà, ça s'est fait ensemble. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Moi, je voulais une musicienne, je voulais une femme qui chante, je voulais une vraie chrétienne, je voulais quelqu'un qui craigne Dieu. Et la preuve, c'est que je peux être ici à cause d'elle. Je peux être directeur en Suisse à cause d'elle. Je ne suis pas chez moi 15 jours par mois minimum. Des fois 17 jours, moi passé, c'est 18 jours pas chez moi. Je suis parti à Madagascar, tout ça. Si tu n'as pas la bonne femme, ton ministère, il est à terre. Pareil pour elle. La fin du mois, elle part 15 jours en Amérique. Je garde les enfants, pas de souci. Et on est un peu, vous dites, on a deux fous ensemble. Elle va pour un cours. Et donc, voilà. Mais, et quand tu as un projet, quand tu as une vision, tu sais pourquoi prier. Tu sais comment prier. Tu sais comment canarder. Tu as une cible et tu vises la cible. Et c'est ça, cette dame, et c'est le premier point qu'elle a, qui marche, c'est qu'elle a un projet. Elle ne se dit pas, peut-être que si Jésus passe, peut-être je serai guéri. Non, elle a un projet. Elle sait, je vais traverser la foule, je vais toucher Jésus, et je sais que si je le touche, je serai guéri de mon mal. La question que je te pose, c'est quel est ton projet? Quel est ton rêve? Est-ce que tu rêves encore? Est-ce que les aléas de ta vie n'ont pas tué tes projets? Eh bien, c'est le jour où il faut les ressusciter. Parce que celui qu'on sert, il est ressuscité. Lui, la mort, il marche dessus. Amen. Premier point, une vision claire. Et puis dès que tu as une vision, c'est toujours comme ça, dès que tu as un beau projet, dès que tu as une belle vision, à quelle heure je dois m'arrêter? Il faut me dire une heure, parce que moi je vais faire 2 heures. Hein. Non, non. Okay. J'ai commencé à quelle heure? Moins un quart, ça va. À quart, j'arrête. Et donc, et qu'est-ce que je disais moi? Ah oui. Donc elle a un beau projet, elle a une vision, elle a un beau projet. C'est un super projet. On peut se dire, mais qu'un projet comme ça, mais Dieu est avec elle, ça va aller tout seul. C'est magnifique. Elle veut juste traverser la foule et toucher Jésus. Mais tout va aller sur des roulettes. Tout va aller de manière parfaite. Et en fait, dès qu'elle rentre dans son temps où elle va être guérie, dès qu'elle voit Jésus, le problème, c'est qu'il y a une foule autour de lui qui compresse Jésus, comme j'ai dit. Et la foule, ça s'appelle un personnage collectif. Alors, c'est plein de gens, mais ça représente une masse. Donc, c'est un personnage collectif. Et ce personnage collectif, évidemment, celui de dire maintenant, c'est moi qui invente. Mais c'est facile à imaginer. Parce que quand cette foule... Et cette foule, elle représente le marketing du diable. J'appelle ça comme ça. Donc, c'est la foule. Elle a 3 fonctions, au moins. 1, elle va décourager la femme. 2, elle va créer le doute. 3, elle va essayer de tuer sa vision. Je vais développer ça. Mais d'abord le marketing. Moi, j'aime bien le marketing. Un truc qui marche avec moi, là, qu'est-ce que le marketing? Alors, s'il y a un chrétien qui est dans le marketing, pas de souci, tu peux continuer. Dieu t'aime aussi. Mais le marketing, c'est un truc qui... J'aime beaucoup ça. Hein. Moi, je suis à moitié italien, donc on est un peu à la charge, tout ça. Et donc, le marketing, c'est quoi? C'est, tu viens de manger. Tu as mangé contextuellement une fondue et dessus, tu as mangé des meringues crème double. Donc, tu n'en peux plus. Hein. Et donc, tellement tu as mangé, tu dois détacher un bouton du pantalon et aller marcher comme ça, au moins une heure pour que ça digère. Et pendant que tu marches, tu es à Bienne, je ne sais pas s'il y a un McDo à Bienne, tu marches, et puis en pleine marche, tu vois ce panneau de 8 mètres de long sur 4 mètres de large avec 2 hamburgers olympiques comme ça. Et tu regardes, tu n'as pas faim, jusque-là, tu n'as pas faim, mais tu vois l'hamburger et il te parle. Et il te dit, mange-moi. Et comment il te dit ça? Simplement, ils ont designé le truc. Donc tu vois le pain au-dessus, je suis fils de cuisinier aussi, donc fils de restaurateur, donc là, moi, la nourriture, c'est un peu ma famille aussi. Et donc, tu vois ce pain qui est cuit exactement comme tu veux. Il n'est ni trop cuit, ni pas assez cuit, il est juste orangé, bruné, comme ça. Et tu n'entends pas, mais si tu le presses, il fait clic. Et juste après, pour te déculpabiliser, tu as un peu de salade qui serait une tomate. Tu te dis, ça va, j'aurais mes deux légumes. Tu te dis, c'est bon. Et juste après, mais la tomate olympique, pas une tomate du marché, une tomate rouge, mais dure en même temps, tendre, goûteuse, enfin, tu vois le truc, quoi. Et une petite goutte d'eau dessus pour te dire, c'est frais. Un marketing, c'est génial. Et puis juste après, on rentre dans le moment dur, tu as le fromage. Je ne sais pas comment ils font, mais le fromage, il tient, et il y a juste, il n'y a pas de graisse, mais il brille un peu. Histoire de, ça va, c'est pas trop gras. Et puis, tu as 4 tranches de bacon, pareil. Et leur bacon, il ne tombe pas, il est droit. Il est juste bien cuit. Et un peu de poivre dessus, puis tu as la viande qui est cuite comme tu veux qu'elle est cuite, puis encore un peu de tomate, salade. Et puis, tu as le pain en dessous. Tu rentres, tu as plus faim, tu rentres, tu dis, on veut deux comme ça. Tu t'assieds, tu ouvres le truc. Lui, il est en pleine forme, le tien, il est en dépression nerveuse. Il est tout plat, c'est pas comme ça, c'est pas le même. Oui, ça c'est le marketing. On vend la forme, mais le fond n'est pas le même. C'est comme quand tu vas la première fois chez tes beaux-parents, t'arrives correct. Tu te rases, tu te maquilles, tu fais ce que tu veux, mais il faut arriver correct. Il faut te vendre, sans mentir, il faut te vendre. Et le marketing, c'est ça. Donc Satan, pourquoi je dis ça, c'est le marketing du diable, parce qu'il va te faire croire que la foule a un impact sur toi. Il veut faire croire à cette femme, il veut vendre la foule plus cher qu'elle ne l'est. Premièrement, il va créer le doute. Et ce doute, c'est ceci. La foule, il faut imaginer, elle crie à la femme. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Dieu n'a pas de temps pour toi. Ça fait 12 ans qu'il ne t'écoute pas, il ne t'écoutera pas non plus aujourd'hui. T'es trop vieille, tu perds trop de sang, t'es impure, t'es pas assez ceci, t'es pauvre en plus. Dieu n'a pas le temps. C'est ça que la foule crie à cette femme. Alors que, et c'est ça qui est magnifique, alors que elle, qui est complètement disqualifiée pour un miracle, c'est elle qui va voir son miracle. Avec les yeux humains, on pourrait dire elle, jamais. Même toi, tu es là, tu te dis, écoute madame, je vais y aller moi, parce que tu vas te faire mal à la foule, imagine, c'est moi je fais 110 kilos, imaginez des gens comme moi là-bas, traverser la foule, c'est se prendre des coups, c'est sûr et certain, elle a été malmenée. Et donc moi j'aurais dit à la femme, écoutez, restez là, touchez mon pied, et moi je vais toucher pour vous Jésus, et ça va passer, et vous aurez l'onction. Pour l'aider, eh ben, c'est celle qui était disqualifiée, c'est celle que tout le monde a oubliée, c'est avec celle-là que Jésus-Christ était. Amen. Amen. C'est celle-là que Jésus a vue. C'est celle-là qui a touché Jésus avec sa foi. Donc la foule crie, elle décourage. Elle crée le doute. Deuxièmement, elle décourage. Elle décourage parce que cette femme, ça ne fait pas 3 mois qu'elle souffre, ça ne fait pas 4 mois qu'elle souffre, c'est 12 ans. 12 ans, ça devient décourageant. Ça devient décourageant. Et il y a une femme dans la Bible, qui a prié longtemps pour un enfant. Et elle montait chaque année au temple. Elle suppliait Jésus, Dieu, donne-moi un enfant. Elle retournait rien du tout. Sa rivale, son mari avait 2 femmes. Hein. J'avais qu'une, c'est compliqué, je ne sais pas comment ils font avec 2. Mais en tout cas, et donc il a 2 femmes. Et sa rivale, elle avait plein d'enfants et elle n'avait rien. Et elle persévérait, elle montait chaque année. Cette dame, elle s'appelle Anne. Et puis un jour, Anne, elle monte au temple. Et elle prie, et c'est marrant, il y a un paradoxe dans la prière, elle prie avec amertume. C'est drôle, hein, quand on prie Dieu avec amertume, c'est qu'on est loin. Hein. Le Seigneur, je t'aime, mais tu me fais... Pourquoi tu réponds à ma prière, quoi? Seigneur, pourquoi tu tardes? Ça devient long. Tout le monde a quelque chose, moi j'ai rien. Et là, elle fait un vœu. Seigneur, si j'ai un garçon, je te le consacre. Le Dieu qui a dit non pendant longtemps, quand il a dit oui, dites-moi amen. Quand il a dit oui, dites-moi un peu de qui Anne a accouché. Non, pas Samuel, ça s'est passé. Samuel le prophète qui a ouin qui? Exactement. Vous voyez un peu l'onction? Dites-moi un peu le prénom d'un des enfants de la rivale de Anne. Ah, le Dieu qui dit non, c'est aussi le Dieu qui dira oui, et quand Dieu dit oui, c'est pour une onction spéciale. Amen. C'est pour quelque chose de grand. Et donc, cette dame ne s'est pas laissée décourager par la foule. Et enfin, troisième chose, cette foule, et c'est le pire, c'est tuer la vision. Cette foule, elle veut tuer ta vision, elle veut tuer ton projet. Et c'est pour ça qu'il faut une vision. Quand tu as une vision, tu la gardes, tu sais où tu vas. C'est difficile, c'est décourageant, tu veux arrêter 1500 fois, mais quand tu as un projet, il y a quelque chose derrière qui te fait, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui te fait continuer. Et cette dame, un exemple de tuer la vision, c'est, est-ce que vous connaissez Claude Hood? Claude Hood, c'est un pasteur canadien qui a repris une église de 40 personnes. Aujourd'hui, ils sont 4000 chez lui. Il implante partout. C'est, à mon avis, un des meilleurs prédicateurs francophones. Le meilleur prédicateur. Mais quand ce gars-là s'est converti, il faut savoir, je fais une petite digression, une parenthèse, Satan, il frappe, c'est un stratège. J'aime pas trop parler de lui, mais c'est un stratège. Il a beaucoup d'années d'expérience. Et il sait quand frapper. Et quand il frappe, c'est au bon moment pour faire mal. Il ne chatouille jamais. C'est pas le genre. Et Claude Hood, voilà un exemple parfait, et la femme aussi, je reviendrai après. Satan a frappé au moment idéal. J'ai un copain, donc congolais, vous savez, j'ai grandi avec eux, il me disait, Benoît, j'avais rien compris à l'époque, j'étais au Congo, pour un voyage missionnaire, et puis il me dit, Benoît, tu as un appel d'évangéliste, mais attention, quand le diable veut tuer un éléphant, il va le tuer quand il est petit, pas quand il est grand. Quand il est grand, qui fait 9-10 tonnes, c'est impossible, mais quand il est petit, c'est là qu'il faut frapper. Oui. Donc ça veut dire quoi? Quand le diable sent l'oignon, il ne voit pas le futur, mais il sent l'oignon. Quand le diable sent cette fille-là, ce garçon-là, cet homme-là, il est motivé pour Jésus. Je vais tout faire pour l'arrêter. Quand tu veux te lever pour Jésus-Christ, le diable va frapper, pas quand tu es bien, il va venir, pap! Et Claude Hood arrive dans l'église, et il vient de se convertir. Son papa, il est alcoolique, il frappe sa maman. Vous voyez de quel milieu le gars il vient. Donc il est défavorisé à fond. Et il y a un cours d'homilétique, un cours de prédication donné à l'église. Il y a 12 personnes qui s'inscrivent, 12 jeunes. Et l'exercice, c'est prêcher à la fin. Et puis le premier prêche, le pasteur arrive, il dit « Bien, bravo, t'es le meilleur, t'iras loin. » Le deuxième prêche, pareil. Le troisième prêche, pareil. Et on arrive à Claude Hood qui prêche avec un vocabulaire de cité. Et il y va, quoi. Mais son cœur est bon. Le pasteur l'attrape et lui dit « Il faut faire attention à ce qu'on nous dit. » Il faut se détourner des gens toxiques, je vous dis, ça, c'est le pire qui peut arriver. N'écoute pas une personne toxique, même de la famille. Le gars arrive, le pasteur le prend par l'épaule, il dit « Claude, pour le bien de la francophonie, les phrases, pour le bien de la francophonie, arrête de prêcher tout de suite, ça n'ira jamais. » Imaginez, il écoute ce gars-là, ce jour-là. Aujourd'hui, il y a 4000 personnes, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas le salut. Vous voyez un peu, Satan, il frappe quand il faut pour tuer la vision que tu as. Cette dame-là, elle est à 2 minutes de son miracle, à 10 secondes du miracle, et à la foule. Ça fait 12 ans qu'elle l'attend, ça fait 12 ans qu'elle perd, ça fait 12 ans de souffrance, 12 ans d'amertume, elle a 2 minutes. Et c'est là, stratégiquement, je n'aurais pas fait mieux, c'est là qu'il faut frapper. Il faut absolument l'empêcher à atteindre sa vision. Il faut absolument l'empêcher par n'importe quel moyen à ce que cette dame, elle touche le vêtement de Jésus. C'est là qu'il faut mettre la deuxième. C'est là qu'il faut mettre la deuxième. Et le point suivant, cette dame, donc la foule, elle crée le doute, elle décourage, elle tue la vision. Point suivant, pour ne pas que ta vision tue, il y a un secret, c'est la persévérance. Perce et tu verras. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est rater plein de fois, c'est abandonner plein de fois, c'est dire j'arrête, j'en ai marre plein de fois, ça n'ira jamais. Et puis à un moment, tu reprends tes idées, Dieu t'encourage, allez, je vais continuer quand même. Ça, c'est la persévérance. Je n'arrête pas tant que je n'ai pas eu ce que je voulais. Je n'arrête pas. Amen. Je n'arrête pas tant que je n'ai pas atteint la chose que Jésus a mis dans mon cœur. J'arrête pas. Moi, quand j'étais dans mon deuxième master, là, à l'UCL, l'Université catholique de Louvain, jamais je pense arriver là-bas. Je m'inscris, ils me prennent tout de suite. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Moi, je travaillais. Moi, je suis fils de... Je suis orphelin, en plus. Ma maman est toute seule avec 4 enfants. Essaye. Et donc, moi, je suis l'aîné. À 10 ans, ma mère, je me rappelle, me dit, voilà, t'as 10 ans maintenant, t'es l'homme de la famille. Tu vois le fardeau sur les épaules. Ouais, quoi? Je suis quoi? Moi, j'ai 10 ans. Mais t'es le premier, donc j'ai dû l'être. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Donc, j'arrive à l'UCL, là, pour faire mon deuxième master. Mais moi, j'avais un contexte de misère. Je n'avais pas de bourse d'études. J'étais pasteur temps plein, pas payé. J'étais temps plein comme prof, payé. Et puis, je prêchais à gauche et à droite. Enfin, c'était difficile. Donc, j'arrivais au cours quand je pouvais. Donc, je sortais des cours donc que je venais. J'arrivais à l'université décoiffé, avec la chemise qui sortait, devant la classe. Et je faisais comme je pouvais. Et il y a une fille, une fois, une femme qui m'attend, et elle, par contre, le contraire de moi. Ses parents très bourgeois, pas de souci. Hein, moi, je pas de souci. Le rôle d'un parent, c'est d'aider son enfant le plus possible. Moi, j'avais pas de papa, donc tu te débrouilles. Et très bourgeois, et en plus, elle connaît ses parents, connaissaient les profs, donc elle a une bourse d'études. Donc, en plus d'avoir déjà tout, elle en rêve de trop. Toi, tu es là, tu rames contre vents et marées, tu rames. Et alors, une fois, elle arrive, elle met sa cigarette devant l'école avec un grand, c'est un style, hein, un grand châle, une écharpe. Et elle me voit arriver, transpirant, machin. Et elle fait comme ça, elle me regarde, mais qu'est-ce que tu fais encore ici, toi ? Il dit, moi, je viens pour réussir. Dans ma tête, il dit, moi, je viens pour réussir. Mais j'ai rien dit. Hein. Je dis, moi, je viens pour réussir, ne tracasse pas. Elle a raté, j'ai réussi. Parce que Jésus est là. Amen. Parce que Donc, moi, il ne faut jamais écouter les gens toxiques. Cette dame n'a pas écouté la foule qui était toxique pour elle. Elle a persévéré. Elle a plié le genou, elle a eu mal, mais elle a persévéré. Et jusqu'au bout, qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu sa guérison. Amen. Elle a touché Jésus avec sa main et elle a eu la guérison. Cinquième point, la foi. Ah, mais ta foi t'a sauvé. La foi, c'est compliqué. La foi, ça peut vraiment nous perturber. Il y a cette théologie de la prospérité que je déteste qui dit ceci. Il y a eu, ils vous disent que, là, en gros, si Dieu t'aime, tu es très riche, tu as une santé parfaite. D'ailleurs, si tu meurs, il y a un problème. Hein, si tu as une santé parfaite, on ne meurt jamais. Tu dois avoir du succès, tu dois vraiment, tu rentres quelque part, les gens, ça incline tout ça. Et dans la guérison, il y a la foi. En fait, c'est la foi qui te donne la guérison. Mais moi, c'est pas biblique ça. Il y a une nuance, c'est presque, parce que évidemment, la prospérité, c'est pas tout faux. Il y a 20% de vrai et 80% n'importe quoi. Par exemple, il y a un gars qui va prêcher, je ne sais plus où c'était, c'est un évangéliste, il prêche la guérison. Et puis, pendant la prédication, il dit, maintenant, tous ceux qui sont malades ici, vous arrêtez vos traitements médicaux. Ceux qui ne voient pas, vous écrasez vos lunettes à terre par la foi. C'est la foi qui montre ça. Et puis, vous venez, je vais prier pour vous, le gars prie pour vous. Et là, il y a un diabétique qui arrête ses médicaments. Une semaine après, il meurt. Et puis, sa femme, la veuve, vient trouver le pasteur américain. Il dit, mais pasteur, mon mari est mort parce qu'il vous a écouté la prédication. Il parlait de la foi. Vous savez ce qu'il a répondu ? Il dit, vous savez pourquoi il est mort ? C'est pas de ma faute. C'est parce qu'il n'a pas eu la foi. Cette foi-là n'est pas biblique. Parce que si, regardez bien le truc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout est grâce ? Il est clair. Qu'as-tu que tu n'as reçu ? Si tu l'as reçu, pourquoi te booster ? On sert Dieu par la grâce. Tu pries une heure par jour, c'est la grâce. Tu fais des études, c'est la grâce. Tu prêches bien, c'est la grâce. Tu fais la louange, le ciel s'ouvre, c'est la grâce. T'es ancien, c'est la grâce. T'es pasteur, c'est la grâce. On ne mérite rien. Et le problème avec la foi qui mérite, c'est que alors tu es Dieu, c'est pas complètement la grâce, c'est un peu aussi la loi, c'est un peu aussi mon effort qui fait que. Alors que le texte dit, la foi de la femme ici, c'est pas qu'elle est sûre et certaine que Dieu va guérir, c'est elle croit que Dieu est capable de la guérir. Mais c'est pas la foi qui fait qu'elle guérit. Elle croit que Dieu peut la guérir, donc elle s'avance. Parce qu'essaye d'avancer vers Dieu pour une guérison, tu crois pas qu'il est capable. Et évidemment, pour avoir une guérison, j'y crois, hein. Moi j'en ai vécu, évidemment qu'il croit, mais ce n'est pas parce que tu as la foi que Dieu va te guérir, c'est par la grâce qui te guérit, et c'est ta foi qui te fait t'approcher de Jésus, mais c'est lui qui décide, amen. Donc c'est, en gros c'est la grâce, et donc cette dame ici, la foi, 2-3 points sur la foi de la femme ici, ce n'est pas qu'elle croit bêtement, la foi c'est qu'elle a fait quelque chose, donc, elle a eu la foi, et elle a mis en action, j'appelle ça la foi-action, c'est un nouveau mot, voilà, vous l'avez, j'avance des mots, on retient, hein, je suis prof. Hein. Donc la foi-action, c'est la foi en action, elle n'a pas attendu, elle ne s'est pas dit, moi je suis faible, je n'arriverai jamais, ils ont raison, et puis en plus je suis impur. Donc quand Jésus va passer, eh ben, je vais attendre que le vent de la foule, emportant toute la transpiration au passage, touche mon corps, et ce vent va me guérir. Ça, c'est la foi exaltée qui attend. Des fois, c'est bien, mais dans ce cas-ci, ça ne va pas. Elle a mis sa foi en action. Elle s'est dit, quand il passera, je vais y aller. Donc, la foi, ce n'est pas seulement croire que c'est possible, mais faire ce qu'il faut pour arriver. C'est-à-dire, je fais ma part. Et sa part, c'était traverser la foule. Et puis, elle a un peu de folie, cette femme. C'est de la folie de traverser une foule comme ça. C'est de la folie. Elle va se faire du mal. Et donc, la foi, c'est un peu de folie. J'appelle ça la folie. La folie et la foi-action. Il faut un peu des deux. Honnêtement, quand moi, j'ai commencé l'université, même à l'église, hein, je me rappelle ce gars-là, t'étais bête, hein, quand on est jeune, on est un peu... Un homme, il est fini à 25 ans, le cerveau d'un homme est terminé à 25 ans. Donc un homme avant 25 ans, il n'est pas fini. Une femme bien avant. Donc j'étais pas fini, donc je dis encore toutes les choses. Et donc j'arrive à l'église et je dis à un gars, tu sais quoi, je vais commencer la théologie. Et il rigole. un fou rire. Ça se arrive, ils rigolent de ma poire aussi. Eux n'ont rien. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien. Et comment ? Et donc, c'est pourquoi je disais ça, moi ? Je ne sais plus pourquoi je disais ça. À la foi, oui. Ouais, et il faut un peu de folie. En effet, quand je me suis inscrit, il faut un peu de folie. Il faut croire que Jésus-Christ, il croit en toi. Et pour que ça marche, il faut toi-même croire en toi. Crois en toi, pas pour qui tu es. Crois en toi pour ce que Jésus a mis en toi. Amen. Bon, c'est un péché de ne pas croire en soi, parce que Dieu a mis chacun de nous quelque chose. Amen. Et cette dame, donc, elle a eu la foi-lie, la foi-action. Et puis, dernier point sur la foi. Ça lui a pris 12 ans d'échec. C'est 12 ans d'échec pour une seconde de victoire. Seconde qui change tout, on est bien d'accord. Mais c'est 12 ans d'échec. Autrement dit, l'échec, il est bon. Moi, j'aime l'échec pourvu qu'on apprenne quelque chose. L'insensé, il a 100 coups de fouet, il n'apprend rien. L'homme sage, un coup de fouet, il apprend quelque chose. Et donc, ça, c'est un coup de bâton. Cette dame, les 12 ans de souffrance, c'est un coup de bâton. Mais ces 12 ans de souffrance lui ont donné la clé pour sortir de ça. Vous voyez ? Donc, l'échec, oui, s'il crée une clé pour sortir d'où je suis. L'échec, oui, si j'apprends quelque chose de l'échec. Et alors, ça devient une leçon. Et donc, c'est génial. Et donc, cette dame, voilà. Donc, c'est pas comme ça. Dernier point. C'est le même centrique que moi, mais je ne sais pas. Dernier point, c'est une femme intelligente. Avant, là, pardon, je n'ai pas fini avec la foi. La foi, donc, j'aime bien Nelson Mandela. Mandela qui dit ceci, il dit, dans la vie, je ne perds jamais. J'apprends ou je gagne. Autrement dit, il y a un temps dans notre vie à tous pour apprendre et un temps pour gagner. Si on est sage, on discerne, est-ce que je suis dans un temps d'apprentissage où je dois apprendre un truc, et puis où est-ce que je suis à un temps où je dois gagner et mettre ma vision en action. Je ne perds jamais, j'apprends avec Jésus, j'apprends où je gagne. Dernier point, c'est une femme intelligente. Pourquoi ? Parce qu'elle a changé de stratégie. Et quand on n'aime pas tout ça, hein, mais pourtant c'est comme ça. Quand tu as une vision, il faut aussi une stratégie pour arriver. Tu ne peux pas avoir une vision et j'attends. Non, tu as une vision et comment je vais y arriver ? Et cette dame, elle est intelligente parce que pendant longtemps, 12 ans, elle avait une stratégie qui n'a pas marché. C'est aller voir les médecins, dépenser tout chez eux. Et à un moment, elle a changé de stratégie. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est dit, non, je vais aller trouver Jésus, je vais toucher son vêtement. Et Albert Einstein dit ceci, le sommet de l'imbécilité, c'est faire la même chose toujours en s'attendant à un résultat différent. Ouais, elle est bonne, hein ? C'est Albert, quoi. Eh bien, elle est intelligente parce qu'elle a changé. Donc elle voulait un résultat différent, elle a changé de stratégie. Amen. Si dans nos vies, on veut un résultat différent, il y a peut-être des temps où il faut changer de stratégie. Une stratégie qui paye, par exemple, tu dis, moi, je n'arrive pas, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas le temps. Eh bien, change de stratégie. Prends le temps, tu verras un changement, par exemple. Amen. Etc., etc. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Conclusion. Comment elle l'a fait ? La question, c'est comment elle fait. 1, elle avait une vision, elle avait un projet. 2, elle ne s'est pas laissée décourager par la foule. Elle n'a pas laissé le doute s'installer et elle n'a pas laissé la foule tuer sa vision. Enfin, point suivant, elle a persévéré. Elle n'a pas arrêté jusqu'au moment où elle a eu ce qu'elle voulait. Puis la foi. Cinquièmement, la foi. On a vu que la foi, c'est la foi-action, la foi-lie, et ça prend 12 ans d'échec pour une minute de succès. Mais cette minute change tout, évidemment. Et enfin, c'est une femme intelligente. Elle a changé de stratégie et elle a eu un autre résultat. Amen. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour qui tu es. Je te remercie parce que tu es le roi des rois et tu es le Seigneur des seigneurs. Papa, je te remets entre tes mains cette église. Moi, je ne crois pas au hasard, Seigneur. Cette prédication, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin, ne fût-ce que d'un point, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que... Alors qu'on est assis, Seigneur, que les personnes qui passent par ce moment de souffrance, Seigneur, les personnes qui passent par ce moment de difficulté, qui sont découragées ici, Seigneur, et qui se sentent disqualifiées pour un miracle, je te demande d'agir maintenant dans leur vie, Seigneur. Touche, Seigneur, que cette prédication ait un impact, Seigneur, parce que ce n'est pas la mienne, c'est la tienne, Seigneur, c'est ta parole, et ta parole ne revient jamais sans avoir son effet, Seigneur. Touche mon frère, touche ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Je t'ai ainsi prié. Amen.